bonjour, merci de nous rejoindre en raison d'un mouvement de grève. Petite grande table aujourd'hui jusqu'à 13h, midi 55, le rendez-vous du médiateur exceptionnellement avancé, précédé à midi 30 du journal d'Antoine Mercier. Et pour commencer, la disparition d'une grande, grande dame, une anthropologue dans la cité. Retour sur l'œuvre de l'essayiste et militante féministe Françoise Héritier, décédée hier le jour de ses 84 ans. Auteur de deux œuvres phares de la violence, mais aussi du masculin féminin, glaneuse de sensations, elle se souvenait dans Le sel de la vie et Le goût des mots, inventaire qu'elle venait de compléter avec Au gré des jours, le tout chez Odile Jacob. Le prix Femina venait aussi de lui être décerné pour l'ensemble de son œuvre, et un prix Femme qui a tant fait, Femme qui a tant compté devrait être inventé. Alors avant de revenir sur son parcours, merci Françoise Héritier.
La grande table. Olivia Gesbert.
Le bonheur pour vous, qu'est-ce que c'est ?
Le bonheur, c'est de vivre en accord avec soi-même et avec son entourage.
Avec des enfants, un homme ?
Oui, aussi.
Le mariage, c'est pas indispensable ?
Mais le mariage n'est pas indispensable.
Véronique Naoum-Grappe est à nos côtés, anthropologue, chercheuse à l'EHSS. Vous avez été l'élève de Françoise Héritier. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. À vos côtés, Emmanuel Théré, anthropologue, également spécialiste de l'Afrique. Votre dernier ouvrage, Mes anges gardiens, publié cette année au Seuil, inclut un texte de Françoise Héritier où elle vous présentait en insurgé. Alors, bienvenue à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'était d'abord un caractère, Véronique Naoum-Grappe, cette femme, quelqu'un qui en imposait. On la disait un peu fluette, sa voix douce, on insistait beaucoup sur ses caractères, ses qualités-là de sa personne, mais elle avait une autorité naturelle, j'imagine. Comment elle se faisait entendre dans un amphithéâtre auprès de ses étudiants ?
Alors, vous vous souvenez que dans son dernier livre, elle dit qu'elle est dans un taxi, et le chauffeur de taxi lui dit au dernier moment... Mais vous devez être institutrice, tout ce que vous dites s'imprime dans ma tête. Et je dirais qu'elle dit contente, très satisfaite de ça. Je rappelle aussi qu'elle dit dans ce texte, à un moment elle dit « Confiance ou tranquillité en face de la mort qui leste la vie ». Donc cette phrase m'est revenue, c'est peut-être pas tout à fait. Si vous voulez, il faut comprendre. Pour comprendre la fois la douceur, il y a un paradoxe. Il y a une grande modestie, c'est vrai, quelque chose de doux et d'un peu apparemment enfantin, et en même temps une énergie, une logique assez stupéfiante. Il faut comprendre que dans un cours, par exemple, de sciences sociales, il y a plusieurs types de cours. Il y a ceux qui prennent comme unité un lieu, une monographie, une période, etc. Et c'est assez tranquille. Et il y a ceux qui prennent, comme Françoise Héritier, une thématique. Par exemple, la différence des sexes. Prenons cette thématique, elle va utiliser tout ce qu'elle peut butiner, tel un chasseur-cueilleur scientifique, comme fait, comme information, etc., pour mettre dans son cours avec deux balises. La première, c'est cette invention géniale des butoirs de la pensée. Pourquoi est-ce génial ? Parce que ça lui permet d'évacuer la question du réel, de la vérité, des faits, de l'etc. Le butoir sur la pensée, c'est ce contre quoi on se cogne la tête, par exemple. Eh bien, l'espèce humaine, Homo sapiens sapiens, pour faire la reproduction d'un autre être humain à partir de deux, il y a certains mécanismes, ou masculin et féminin, qu'on le veuille ou non, qu'on grimpe au rideau ou non, n'ont pas le même rôle. Ils sont pas symétriques inverses, ils sont même très différents. Et c'est même assez particulier et ça entraîne des faits. Et elle, l'idée de butoir sur la pensée, le jour et la nuit, elle le prend comme socle d'un côté et de l'autre côté, avec donc toute cette liberté formidable et assez pour l'étudiant vertigineuse, où elle prendra à la fois un rêve qu'elle retrouve dans Freud, un rituel de l'Égypte ancienne, une pratique qu'en tant qu'ethnologue de terrain elle a vérifiée, elle a même accompagné, une lecture, etc. Elle va prendre, et grâce à une logique, il faut comprendre ce que c'est que la logique de Françoise Héritier, une logique où pas à pas, cousu extrêmement minutieusement, si vous suivez son cours et que vous loupez un palier, vous êtes foutu, vous dévissez. Il faut donc pas à pas, avec une voix qui c'est vrai, est douce, sérieuse, assez très très calme, zéro, aucun effet de comme ça, de manche, zéro zéro. Avec cette voix formidable, tout à coup, qui devient tellement rigoureuse, ce lien entre la rigueur Et la liberté, c'est assez exceptionnel. Elle vous emmène à la fin du cours où tout à coup, le puzzle de tout ce qui a été construit devient un paysage et l'étudiant n'a pas vu le temps passer.
Dans son dernier livre, recueil au gré des jours, elle disait qu'il s'agissait pour elle de faire affleurer le permanent sous le contingent et l'universel, sous l'individuel. Et dans le sel de la vie, qui a été un carton en librairie, il faut le dire, et qu'il a peut-être aussi révélé au grand public, où elle glanait des sensations, des émotions, ces petits riens de la vie qui font justement aussi nos existences. Elle écrivait en ouverture, il y a une forme de légèreté et de grâce dans le simple fait d'exister au-delà des occupations, au-delà des sentiments forts, au-delà des engagements. Et c'est de cela que j'ai voulu rendre compte, de ce petit plus qui nous est donné à tous, le sel de la vie. Quel était pour vous, à vos yeux, Emmanuel Théré, vous qui la connaissiez bien, ce petit plus qui faisait cette femme ?
Françoise, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que elle était, et c'est probablement comme ça qu'elle restera dans l'histoire, elle était d'abord une grande savante. Et dans une discipline où les découvertes au sens propre du terme ne sont pas nombreuses, elle a plusieurs découvertes extrêmement importantes à son actif. Bon, je pourrais les évoquer. Par exemple, la manière dont elle a su décrypter ce qui s'appelle les structures semi-complexes de la parenté. Bon, les structures élémentaires que Lévi-Strauss a étudiées, ce sont les systèmes dans lesquels le conjoint est prescrit. Les systèmes semi-complexes, ce sont des systèmes où, au contraire, sont prononcés un certain nombre d'interdictions. Il y a des gens que vous ne pouvez pas épouser. Et pour le reste, en théorie, eh bien, le choix est laissé au gré des circonstances ou au gré du hasard. Et étudiant sur le terrain en Afrique l'un de ces systèmes, Françoise est arrivée à un résultat relativement inattendu et tout à fait passionnant. C'est le fait que dans ces systèmes, l'individu se trouve placé au centre d'une zone interdite, disons, où il ne peut pas épouser les gens de cette zone. Mais au-delà de cette zone, alors qu'on s'attendrait à ce qu'il parte à l'aventure et c'est ça que disait la théorie, bien pas du tout. Il épouse à la frontière même de la zone, au plus près des interdictions. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça traduit une espèce de nostalgie par rapport à la transgression des interdictions, une espèce de nostalgie de l'inceste, finalement, puisque ce qui est interdit est considéré comme incestueux, et qui est une espèce de pulsion présente pratiquement dans toutes les sociétés de ce type, puisque ce mariage au plus près a valeur d'une règle générale. Et ça prouve que ce qui, soi-disant, était soumis au gré des circonstances et au jeu du hasard, en réalité, est soumis à des déterminations, est soumis à des lois, et c'est Françoise qui l'a mis en évidence.
Merci.
Bon,
pour
je
cette...
pourrais évoquer oui. l'inceste du deuxième type.
On va essayer, comme le temps va passer vite, de comprendre aussi l'essentiel de sa pensée, de son parcours, de ce qui faisait aussi la singularité de cette femme. Et vous l'évoquiez, Véronique Naoum-Grapp, et vous, Emmanuel Théré, qui êtes avec nous jusqu'à midi et demi. Elle avait cette particularité d'être d'abord une savante, mais aussi, et c'est peut-être ce qu'on entend dans sa courte définition donnée en 65 du bonheur, elle était toute jeune alors, mais avait déjà parcouru l'Afrique de l'Ouest dans tous les sens. Elle avait cette particularité d'avoir oser mener sa vie en conformité avec ses idées, avec ce qu'elle défendait, de ses premières révoltes, de sa première prise de conscience jusqu'à sa mort, dont on a appris hier à l'âge de 84 ans.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Et je suis allée entendre Claude Lévi-Strauss, dont on m'avait dit un bien si, si grand que je voulais vraiment l'entendre de mes propres oreilles. Et alors là, ça a été la révélation de ma vie, si vous voulez, parce que j'ai découvert des choses qui étaient totalement étrangères à mon champ de perception jusqu'à présent. J'ignorais totalement, encore une fois, la nature des faits dont il parlait. J'ignorais que ça a pu exister. Et puis, sa façon de parler, d'expliquer, était tellement intéressante que je les ai toujours suivies par la suite.
Françoise Héritier, une anthropologue dans la cité, historienne et géographe de formation. Dans les années 50, elle entre en anthropologie, comme d'autres entrent dans les ordres. La révélation, dit-elle, elle la connaît en suivant le séminaire de Claude Lévi-Strauss, à qui elle succédera par la suite en 82 au Collège de France. Elle sera titulaire après lui de la chaire d'études comparées des sociétés africaines là-bas. Une relation filiale, une relation respectueuse et surtout intellectuelle. Elle parle d'ailleurs de succession intellectuelle plutôt qu'institutionnelle, héritière, mais pas copie conforme. Véronique Naumgrapp, comment la pensée de Lévi-Strauss, dont elle louait la capacité à mettre de l'ordre dans le désordre, a-t-elle marqué la sienne? Est-ce que vous diriez qu'il partageait surtout une manière de regarder le monde?
Peut-être pas. Disons que ce qu'il y a d'assez extraordinaire dans la pensée de Lévi-Strauss, et il y a sans doute des meilleurs spécialistes que moi, mais comme lectrice, étudiante, c'est comme ça que je parle ici, en pensant à elle. C'est une façon d'aborder les problèmes où on organise dans un système les oppositions pensables et pas toujours possibles dans un nombre limité de possibilités du pensable et du possible, et en fonction de leur valeur et de leur opposition, on organise un système théorique qui permet de produire une compréhension d'une conduite et d'un fait ou d'une croyance. Bon. Et cette façon de travailler qui a été très très extraordinaire et qui peut être d'ailleurs utilisée comme outil dans d'autres perspectives, elle est dans cette filière, elle est la plus fidèle des disciples avec une finesse et une passion, mais elle va la retourner, à mon avis, ça n'est que mon avis, elle va retourner le système un peu comme une chaussette, elle va le renverser dans l'autre sens en posant de temps en temps quelques questions qui changent tout, qui font tout bouger. L'échange des femmes, oui. Bon, pourquoi les femmes ? Pourquoi n'est-ce pas réciproque? Pourquoi n'est-ce pas une fois l'un, une fois l'autre? Et ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est avec cette rigueur et cette façon de travailler extrêmement rigoureuse et précise, et en même temps en maîtrisant justement les aspects qu'on ne connaît pas, etc., avec beaucoup de prudence, qu'elle arrive à fonder, on dit, c'est pas le féminisme qui vient se superposer au travail de l'anthropologie, c'est l'anthropologue qui, dans son matériau même, on n'a plus besoin du mot féminisme, qui construit un paysage des faits où masculin et féminin ont souvent été traités dans une dissymétrie qu'elle appelait la valence différentielle des sexes, mais qui est en réalité, le fait de l'égalité est un produit scientifique des sciences sociales et de l'anthropologie. C'est pas du tout, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que son travail l'a emmené, et par rapport à votre question à laquelle j'ai échappé, j'ai fugué, c'est la fidélité au sérieux savant scientifique de son maître, assez rigide, faut l'avouer, mais en le subvertissant d'une façon très fine et très intelligente, qu'elle est arrivée à étayer toute la problématique de la différence entre les sexes avec un savoir et vraiment une expertise remarquable.
Avant d'écouter et de vous donner la parole, Emmanuel Théré, sur ce sujet, et si on écoutait ce qu'en disait le maître S. Anthropologie sociale lui-même, parlant de Françoise Héritier.
L'énorme pas que Françoise Héritier Auger a fait accomplir à la théorie du mariage et de la parenté, dans ce très grand livre qui s'appelle « L'exercice de la parenté », c'est précisément d'avoir mobilisé, avec la puissance de conception et d'analyse qui lui appartiennent, d'avoir mobilisé des moyens d'investigation très modernes et d'avoir ainsi pu démontrer, car je crois que c'est ce qui ressort de son travail, qu'entre les règles de mariage des sociétés les plus exotiques et l'absence, je dirais, de règles de mariage au prix de très petites contraintes de nos propres sociétés, il n'existe pas un fossé et qu'il est possible de passer des unes aux autres en les exprimant toutes dans un langage commun. Aussi, je considère que ça a été pour moi une très grande chance que d'avoir l'occasion, avant de prendre ma retraite du Collège de France, d'aider à l'élection de Françoise Héritier dans une chaire assez voisine par son inspiration de celle que j'avais quittée moi-même.
Claude Lévi-Strauss, à propos de Françoise Héritier, que disait-elle, elle, Françoise Héritier, de lui? Dans une lettre, dans la lettre du Collège de France, parlant de Claude Lévi-Strauss, elle en disait « Je ne veux pas dire pour autant que nous entretenions des rapports privilégiés ou une communication très étroite. Claude Lévi-Strauss est un personnage très peu familier et même assez distant, austère, du moins est-ce l'image qu'il donne et à laquelle il a correspondu de plus en plus en avançant en âge. » Elle dit également « C'était un homme d'abord extrêmement courtois, misanthrope en général, sans doute, et bienveillant dans ses rapports avec les gens, très sensible, malgré l'image d'homme froid et lointain qui lui est souvent attaché. Elle va donc le rejoindre entre le Collège de France et le HESS. Françoise Héritier a navigué entre ces deux institutions. N'oublions pas non plus le CNRS qui a beaucoup appuyé notamment ses premiers travaux en Afrique, jusqu'à devenir, Françoise Héritier, une figure de premier ordre de la génération héroïque de l'anthropologie française, dit d'elle ce matin dans l'Humanité Maurice Godelier. On retiendra surtout son travail sur les systèmes de parenté et les structures familiales en Afrique, par son travail de terrain, son obstination et sa pratique. Emmanuel Théré, qu'est-ce qu'elle a vraiment apporté? Qu'est-ce qu'elle a renouvelé dans son approche? En quoi est-elle une figure de premier ordre de la génération héroïque de l'anthropologie française, pour reprendre les mots de Maurice Godelier?
Ben, elle a apporté découverte, plusieurs, mais une découverte en particulier fondamentale, c'est ce qu'elle appelle la valence différentielle des sexes. Et c'est en ça qu'on voit bien à quel point elle est en même temps l'héritière de Claude Lévi-Strauss, mais aussi à quel point son apport est créateur par rapport à celui de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss dit à un moment donné, je crois que c'est dans son livre sur les structures élémentaires de la parenté, il se trouve que dans les sociétés humaines, ce sont les hommes qui échangent les femmes et pas l'inverse. Alors, Françoise Héritier s'est interrogée sur ce « il se trouve ». Et elle s'est interrogée par conséquent sur cette domination masculine, pour prendre un terme plus simple que la valence différentielle des sexes, cette domination masculine qui est finalement une condition de l'apparition des systèmes d'échange et des systèmes d'alliance, et qui est une condition de la formation même de la société. Bon. Et elle a cherché les origines de cette domination masculine, et elle les a trouvées. Bon, dans un fait très simple et très évident, mais beaucoup de découvertes sont la constatation d'évidences tellement évidentes qu'elles en sont aveuglantes et qu'on ne les voit pas. Le fait que les hommes, pour se reproduire, ont besoin des femmes, alors que l'inverse n'est pas vrai. Les hommes, pour se reproduire, ont besoin des femmes, et s'ils veulent avoir un pouvoir quelconque sur leur descendance, eh bien, il faut qu'ils s'assurent le contrôle de la reproduction, c'est-à-dire le contrôle du corps féminin. Et c'est un enjeu majeur de toute l'histoire humaine que ce contrôle de la reproduction, parce que les individus sont attachés à leur descendance et souhaitent se prolonger à travers cette descendance, mais c'est un enjeu fondamental et toute l'histoire humaine a été l'édification de cette domination masculine, son inscription dans la nature des choses, son inscription forcée dans la nature des choses, de telle façon que elle apparaisse comme une sorte d'évidence incontestable, incontournable et inscrite en permanence. Bon, et le mérite de François, ça a été de montrer que précisément cette domination masculine, c'est un phénomène historique, c'est un phénomène culturel, historique, social, et que ce qui a été établi à un moment donné peut à un autre moment et dans d'autres circonstances, être modifiée et être renversée. Et c'est là qu'elle indique, par exemple, que l'introduction et la légalisation de la contraception et de l'avortement est une étape fondamentale de l'émancipation féminine, parce que, à travers ces dispositions législatives, les femmes reprennent le contrôle de leur corps, reprennent le contrôle de la reproduction, et ont par conséquent une sorte de voie ouverte qui leur permet d'échapper, pas encore complètement, mais de franchir un pas important dans cette émancipation qu'elle recherche.
Un invariant, mais pas immuable pour autant. Il n'y avait pas de déterminisme. On pouvait faire quelque chose, même si ça prendrait du temps. Alors ce petit toc-toc qu'on entend régulièrement, c'est le son ou le bruit de votre canne, Emmanuel Théré, qui fait autorité en frappant le sol du studio. En tout cas, il y a un autre terme qu'elle employait souvent, qui est très important à comprendre pour définir cette idée de valence que vous évoquez, cette valence différentielle des sexes. C'est tout simplement cette idée de « c'est le cas depuis la nuit des temps ». Voilà, elle démontre que ce qu'on pense comme un universel culturel, et qui en est un, après l'interdit de l'inceste qui avait été établi par Lévi-Strauss, et cette domination masculine est une construction culturelle qui nous paraît tellement évidente, puisqu'elle a visiblement toujours existé et partout existé. En réalité, pour elle, c'est bien une construction culturelle et non biologique. Et c'est ça qui a justifié depuis toujours la mise en place de sociétés inégalitaires et hiérarchisées. Véronique Naumgrat, comment faire alors pour essayer de détricoter cette construction culturelle? Elle n'était pas fataliste, déterminée par rapport à ça, c'est ce qu'on évoquait. Il faut d'abord élucider cette construction et se dire qu'on peut agir contre.
Alors, il y a plusieurs points sur cette question, parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur le quel est cet universel, quelle est cette nuit des temps, etc. Il me semble qu'il faut bien se souvenir du fait, ce qu'a dit Emmanuel, c'est une savante rentre dans son objet, et dans ses cours, c'était toujours présent, qu'elle a conscience des 200 000 ans où à peu près ça change, je crois, en fonction de recherches archéologiques, des 200 000 ans chasseurs-cueilleurs qui font qu'Homo sapiens sapiens a fait du social bien avant d'être dans l'histoire de l'écrit, bien avant le néolithique, etc. Dans son cours, ça rentre en ligne de compte. Ça rentre en ligne de compte. Ensuite, elle se pose la question de comment dire, comment, en face de difficultés majeures, finalement la culture, c'est pas une fleur qui pousse sur un terreau, c'est finalement en face de difficultés majeures, des solutions conceptuelles pour survivre. Et en face de ces difficultés majeures, eh bien, les êtres humains qui font société depuis 200 000 ans, puisque même maintenant les primates font société, nous le savons, eh bien, ils trouvent des solutions culturelles. Et ainsi, par exemple, la roue, qui a été inventée dans beaucoup de sociétés, n'est pas un universel. La domination du corps féminin qui connaît des variantes extrêmes et un rapport à la sexualité extrêmement différent selon les cultures, plus ou moins tabou, plus ou moins religieux, plus ou moins absence de sémiologie autour de la culture, ça peut arriver. Eh bien finalement, ça n'est pas un universel. Mais par contre, c'est la solution trouvée en face de difficultés, dans la plupart des cas, comme la roue, par les croyances humaines. Alors, évidemment, à partir du moment où cette question de la domination, ce que Marx avait dit, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il étudie la production, la reproduction, c'est pour plus tard. Cette question-là, puisque les femmes sont présentes partout, à tous les niveaux du social, à tous les niveaux des hiérarchies, il faut penser qu'il n'y a pas seulement la femme violée, mais la mère du violeur qui la traite de prostituée. Donc c'est un problème très délicat et très compliqué et très précis en même temps. Et ce que l'on constate, c'est dans le 19e, 20e siècle, peut-être dans d'autres situations et dans d'autres cultures, eh bien, il devient pensable, donc possible, à partir du moment où la technologie, un ensemble de paramètres très compliqués vont dans le même sens, que la femme se délivre du poids d'avoir à lier sa sexualité et la question d'avoir des enfants avec son honneur et sa vertu et la question du lien de filiation au père de son enfant.
On récapitule avec un extrait du Masculin-Féminin, deux tomes, son grand œuvre, hein, paru en 96, La pensée de la différence, tome 1, Dissoudre les hiérarchies pour la deuxième partie. Les femmes sont dominées non parce qu'elles sont sexuellement des femmes, non parce qu'elles ont une anatomie différente, non parce qu'elles auraient naturellement des manières de penser et d'agir différentes de celles des hommes, non parce qu'elles seraient fragiles et incapables, mais parce qu'elles ont ce privilège de la fécondité et de la reproduction des mâles. C'est cette pensée qui expliquera aussi ses engagements par la suite. Vous l'évoquiez, Emmanuel Théré, maîtriser la fécondité devient un formidable outil de libération. Elle le note, c'est une manière pour les femmes de se réapproprier leur corps. C'est une révolution essentielle, dira-t-elle. On comprendra par la suite ses positions, notamment sur la PMA, avec cette idée d'une égalité des deux sexes dans la procréation. Deux vies parallèles, mais pas incompatibles. Son féminisme découlait de ses travaux, son militantisme débordait de sa pratique scientifique. Ce pont entre action et recherche faisait sa singularité. Écoutez Françoise Héritier, la pensée parfois affûtée.
« J'ai parfois été surprise en prenant la parole dans des manifestations qui n'étaient pas intellectuelles, qui étaient politiques. Bon, mais ça avait de prendre la parole, je sais pas, pour Martine Aubry ou et de voir le public d'un endroit immense se lever pour m'applaudir, et je me dis mais d'où, comment ces personnes me connaissent-elles, si vous... Donc ça veut dire que la pensée a quand même fuité un peu.
Ça veut dire que votre mode d'intervention.
Donc le mode d'intervention plus doux et qui s'efforce de faire comprendre pourquoi les choses sont de la sorte, implique chez chacun peut-être des petits changements. Mais même si ce ne sont que des petits changements, tous ajoutés les uns aux autres permettent de voir des grands changements. J'ai quand même assez vécu maintenant pour me rappeler comment c'était quand j'avais 20 ans ou quand j'ai voulu partir pour la première fois sur le terrain, où j'ai été récusée parce que j'étais une fille. Mmh. C'était la raison officielle. Qui maintenant se permettrait officiellement de dire que quelqu'un est récusé parce que c'est une femme ?
Entretien de Françoise Héritier réalisé l'an passé avec Frédéric Worms pour France Culture, à réécouter en intégralité sur le site, sur franceculture.fr, ainsi que le À Voix Nue qui avait été réalisé avec Françoise Héritier et bien d'autres interventions sur la chaîne. Si vous voulez écouter sa voix, ses émissions complètes, son parcours avec vous, Emmanuel Théré, peut-être terminer sur ce point-là très important de son parcours, ces deux vies parallèles qu'elle n'opposait pas. Elle l'a toujours ancré sa pensée et ses recherches dans la réalité d'aujourd'hui, ce qui expliquait aussi son engagement dans la cité.
Cet engagement n'était pas partisan. Elle avait des convictions, comment dire, profondément républicaines. C'est-à-dire qu'elle prenait extrêmement au sérieux la devise républicaine de liberté, égalité et fraternité. Sur le plan politique, ça s'est traduit par beaucoup de respect de sa part envers le président Mitterrand, qui l'a sollicité pour présider le Conseil national du SIDA, pour aller au comité d'éthique. Mais c'était son engagement fondamental. Ça ne prenait pas donc la forme d'un engagement partisan, mais ça animait en même temps toute son activité. Et à travers cette notion de la valence différentielle des femmes, dont elle disait avec humour que ça ne pouvait pas devenir un slogan de manifestation, mais elle a quand même apporté une contribution fondamentale au féminisme, à la théorie du féminisme. Elle était féministe sans vitupération, sans éclat de voix, etc. Mais elle était profondément féministe sur ce plan-là. Et c'est aussi quelque chose qui restera dans son œuvre.
Véronique Naumgrapp.
Oui, elle était aussi très proche, et on le sent dans ses derniers écrits, cette espèce de modestie, de gaieté, de joie de vivre et de perception aiguë du charme de la vie, comme ça, immédiat. Elle était très proche des groupes les plus moindres. Elle avait invité, par exemple, le Bus des Femmes, des associations au Collège de France de travail sur la prostitution. Elle avait invité très proche des groupes de citoyens, enfin de militantes de base valeureuses et inconnues et qui travaillent de façon intelligente et complètement ignorée. Il faut savoir, Françoise Héritier était très proche du terrain quand elle se promenait dans les prisons, et ça c'est quelque chose de formidable pour les gens qui les entourent, les étudiants. Tout le monde profitait de cette espèce de curiosité, de générosité tellement fine et intelligente.
Respecté dans le monde intellectuel et souvent discuté, mais c'est aussi ça qui fait la force d'un chercheur aujourd'hui. Elle l'était aussi dans la société civile à travers ses multiples engagements. Vous l'évoquiez, figure du féminisme d'aujourd'hui à travers ses différents ouvrages. On vous met une bibliographie complète sur le site, sur la page de la Grande Table, sur franceculture.fr, et j'indique aussi le cahier de Lerne qui va sortir consacré à Françoise Héritier que vous co-dirigez, Emmanuel Théré. Merci beaucoup à tous les deux d'être... Oui, venu nous parler d'elle aujourd'hui. Merci mille fois.
À vous. Merci.